Chapitre 18. Le donjon était très loin de ses quartiers privés, mais Richard ne pouvait pas se dérober. Il devait interroger la mère coupable du meurtre de ses quatre enfants. Et dans la mesure du possible, il lui faudrait comprendre ce qui était arrivé. Callan était allé rassurer les invités de Mark et leur répéter qu'ils ne devaient pas s'inquiéter à cause des prophéties. Cette répartition des tâches était idéale. La langue un peu trop vive du sourcier lui avait souvent valu des problèmes. Formé aux difficultés de la diplomatie, Callan risquerait moins de perdre son sang-froid. Richard aurait aimé que Verna, la dame abbesse des Sœurs de la Lumière, soit aux côtés de sa femme pour expliquer les dangers que courait un profane en s'intéressant aux prophéties. Les prédictions n'étaient jamais limpides, même quand elles le paraissaient, parce qu'elles s'adressaient à des détenteurs du don. En un sens, les prophètes de tous les temps communiquaient entre eux par le biais des présages. Seul l'un d'entre eux pouvait avoir les visions liées à une véritable prophétie, l'unique moyen de comprendre son sens en réalité. Sur les dégâts que risquait de faire un profane, Verna en savait plus long que quiconque. Et c'était bien à cause de ça, par exemple, que les Sœurs de la Lumière avaient emprisonné Nathan pendant près de 1000 ans. Tant qu'il ne sortait pas du palais des prophètes, le vieil homme ne risquait pas de révéler des présages à des gens ordinaires. Verna aurait pu convaincre les dirigeants et les ambassadeurs qu'ils n'avaient aucune chance de comprendre les prophéties. Hélas, la dame abbesse, comme Chase et sa famille, avaient quitté le palais immédiatement après le mariage de Kara. Des sorciers en devenir avaient un urgent besoin de supervision. En principe, Zed aurait dû accompagner Verna, mais il avait tenu à rester pour la réception. À présent, le mauvais temps et les événements en cours risquaient de le retarder beaucoup. Dès que Richard eut fini de descendre l'échelle au barreau de fer rouillé, le capitaine des gardes du donjon se redressa de toute sa hauteur et se tapa du poing sur le cœur. En réponse, Richard inclina la tête, puis il regarda autour de lui tout en s'époustant les mains. Par bonheur, l'odeur de pois brûlé parvenait à couvrir la puanteur ambiante. Le capitaine semblait inquiet de voir le seigneur Rall en personne s'aventurer dans le donjon. Son anxiété diminua un peu lorsqu'il vit Nida descendre à son tour l'échelle. Dans la pièce humide et sombre, le cuir rouge de la mort de Sith et sa natte blonde semblaient venir d'un autre monde. L'officier salua Nida et s'autorisa même un sourire poli. À l'évidence, il connaissait la jeune femme. Richard songea que ça n'avait rien d'étonnant. Par le passé, les morts de Sith hantaient les donjons et en particulier celui-là. Lorsque les ennemis réels ou imaginaires du seigneur Hall étaient jetés en prison sur un seul mot de lui, les femmes en rouge étaient chargées de venir interroger et torturer les détenteurs du don. Pour avoir été un de ces prisonniers, Richard en savait très long sur le sujet. « Je veux voir la femme qui a tué ses enfants », dit-il en désignant la porte bardée de fer qui donnait accès aux cellules. « Et l'homme qui a tenté d'assassiner sa famille ? Lui aussi, oui. » Le capitaine introduisit une grosse clé dans la serrure de la porte bardée de fer. Le mécanisme eut un peu de mal à fonctionner, mais dès que ce fut fait, l'officier poussa le lourd battant suffisamment pour qu'un homme puisse passer en rentrant le ventre. Une fois la clé raccrochée à sa ceinture, le capitaine prit une lampe sur la table et s'engouffra dans un couloir obscur. D'un geste vif et précis, Nida s'empara d'une autre lampe suspendue à un crochet, puis elle se précipita, brûlant la politesse à Richard. C'était toujours comme ça avec les morts de Sith, dès qu'il y avait du danger. Au fil du temps, Richard avait appris que protester servait surtout à lui compliquer la vie. Du coup, il conservait les ordres pas discutables pour les moments de crise, et les morts de Sith lui obéissaient dans ces occasions-là. Le capitaine guida Richard et Nida dans un dédale d'étroits couloirs, pour la plupart creusés à même la roche. Après des milliers d'années, les marques de burin semblaient aussi fraîches qu'au premier jour. Ils passèrent devant plusieurs cellules occupées. À la lueur de la lampe de l'officier, Richard vit que des doigts s'accrochaient aux minuscules guichets. Derrière certaines ouvertures, il vit même briller des yeux. Mais dès que Nida leur apparaissait, les détenus reculaient afin de ne pas attirer son attention. Au bout d'un couloir très étroit et sinueux, l'officier s'arrêta devant la porte d'une cellule. Ici, pas de doigts accrochés aux petits barreaux du guichet, ni de paires d'yeux brillants de folie et d'angoisse. Lorsque le capitaine ouvrit la porte, Richard comprit pourquoi. Le battant ne donnait pas accès à une cellule, mais à une sorte d'antichambre très petite au fond de laquelle se dressait une porte. Derrière se trouvait une geôle de sécurité. Avec un bâton spécial, l'officier alluma la lampe suspendue à un crochet.
« Ce sont les cellules défendues par un champ de force, »
dit-il en réponse à la question muette de Richard. Même si le palais était en réalité une rune de pouvoir géante qui renforçait le don des râles et affaiblissait celui des autres sorciers, le champ de force n'était pas une protection inutile. Derrière ce bouclier invisible, un sorcier était impuissant, quelle que soit la force de son don. Avec ces prisonniers-là, il n'était pas question de prendre des risques. Levant sa lampe, le capitaine inspecta le guichet. Quand il fut certain que la prisonnière n'allait pas lui sauter dessus, il ouvrit la porte, poussant de toutes ses forces pour la déplacer dans une cacophonie de grincements de gonds rouillés. Quand il estima que le seigneur Hall pourrait entrer, l'homme s'écarta. Agiel au point, Nida passa la première. La femme assise sur le sol recula jusqu'à être acculée au mur. Aveuglée par la lumière, elle se protégea les yeux. Richard lui trouva un air parfaitement inoffensif, sauf pour ses enfants, hélas.
Parlez-moi de votre vision.
La femme jeta un coup d'œil inquiet à Nida, puis elle regarda de nouveau le sorcier.
Quelle vision ? J'en ai eu beaucoup.
Pas vraiment ce que Richard s'attendait à entendre.
Celle qui vous a incité à tuer vos enfants.
La femme ne répondit pas.
Quatre petits. Et vous les avez jetés dans le vide. Parlez-moi de la vision censée justifier un tel acte.
Mes enfants sont en sécurité auprès des esprits du bien.
Richard leva un bras pour empêcher Nida de bondir sur la tueuse et de lui faire goûter de son agiel.
Non, pas ça.
Souffla-t-il.
Mais seigneur Hall, j'ai dit non.
S'il n'avait aucune sympathie pour l'infanticide, Richard refusait qu'elle soit torturée avec un agiel.
Pas très contente, Nida pointa son arme sur la femme.
Réponds, sinon je reviendrai te voir pour t'apprendre à ne pas te taire quand le seigneur Hall t'interroge. Le seigneur Hall? En personne, oui. Et maintenant réponds à sa question.
« Quelle vision vous a incité à tuer vos enfants ?» répéta Richard.
« Je n'ai plus d'enfants et c'est à cause de vous. »
La prisonnière leva un bras, redoutant de recevoir un coup d'agiel. Richard posa un pied sur le banc creusé à même la pierre, appuya un coude sur son genou et se pencha vers la tueuse.
« De quoi parlez-vous »«
Vous ne nous protégez pas de ce qui adviendra quand le toit se sera écroulé. » Bien au contraire, vous traitez par le mépris les avertissements que nous donnent les prophéties.
La femme leva fièrement le menton.
Au moins, mes petits n'ont plus rien à craindre.
À craindre de quoi ?
Des terribles événements qui se produiront.
Quels événements ?
La femme voulut répondre, mais elle parut s'aviser soudain qu'elle n'avait rien à dire.
Des événements ?
Je veux que vous m'en révéliez plus.
Eh bien, je...
Portant les mains à sa gorge, la femme s'écroula sur le côté, eut un dernier spasme et ne bougea plus. Alors que sa main volait vers la garde de son épée, Richard se retourna et constata qu'il n'y avait personne derrière lui.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Nida.
« J'ai cru sentir une présence,
mais c'est cet endroit qui me joue un sale tour, je crois. »
Richard se pencha sur la femme. Du sang sourdait de sa bouche. À l'évidence, elle avait quitté ce monde.
« Eh bien, ça alors ?»
marmonna Nida.
« Seigneur Hall, vous auriez dû me laisser utiliser mon agiel. Avec un peu de chance, nous aurions eu une réponse.
Je refuse que tu te serves de ton arme, sauf en cas d'absolue nécessité. »
Nida regarda son seigneur avec l'expression menaçante que les morts de Sith pouvaient adopter à volonté. Pour bien connaître ces femmes, Richard savait que leur férocité plongeait ses racines dans la folie.
« C'était une absolue nécessité, »
insista Nida.
« Vous êtes en danger, Seigneur. Ne pas faire ce qui s'impose est de la folie. Si vous êtes frappé, nous souffrirons tous. Ce qui vous menace nous met en danger, vous le savez. »
Richard ne contredit pas la mort de Sith. Au fond, elle avait peut-être raison.
« Si tu avais utilisé ton agiel, » dit-il quand même. « La femme serait sûrement tombée raide morte à ce moment-là. »«
Ça, nous ne le saurons jamais. »